Merci. Voilà. Seigneur, tu es le roi des rois, le seigneur des seigneurs de et cette église, cette assemblée, elle t'appartient. Alors, moi, je veux, ainsi que nos frères et sœurs, proclamer que ce culte t'appartient. Et nous voulons vraiment, Seigneur, te laisser toute la place. Voilà, c'est toi qui diriges l'église, c'est toi, Saint-Esprit, qui parle au cœur de chacun. Et Seigneur, c'est moi qui... Tu m'as donné la... Le message dans le cœur ce matin, et je veux vraiment avec humilité te laisser toute la place, me retirer, et que, Saint-Esprit, je te laisse toute la place. Amen. Mon père aurait eu, il est décédé dans sa 92e année, je pense qu'il aurait 94 ans, il est né, il était de 1923, 29 décembre, et mon père, un homme très simple, m'a appris à marcher avec un ballon au bout de mon pied. C'était sa méthode à lui. C'était sa méthode à lui de me permettre de faire mes premiers pas. Et j'ai marché avec un ballon. Voilà. Et ça a continué. Et j'ai toujours aimé le football. Avant que je ne connaisse Jésus, le football a été pour moi mon premier centre d'intérêt. Je ne vivais que pour ça, je ne pensais qu'à ça. Je rentrais de l'école le soir, j'étais dehors sur la pelouse, j'avais déjà les premières chaussures de football que mon père m'avait payées. Et je ne pensais qu'à ça. Je voulais être un footballeur professionnel. Toute ma vie était fixée, centrée sur le football. Je suis vraiment tombé dedans en étant petit, comme Astérix, mais ce n'est pas la même chose. Je ne vivais que pour ça. Et j'avais des capacités reconnues. J'ai joué dans un très bon niveau, très haut niveau, dans ma jeunesse. Ma vision, je le répète, c'était de devenir un footballeur professionnel. Et vous savez, bien sûr, nous sommes tous passés par là. Nous avons tous eu, c'est très difficile, l'enfance, l'adolescence, l'adolescence, après ça on devient grand, on devient vraiment des adultes. Et puis là j'ai connu une période difficile dans mon adolescence. Et bien sûr les études, elles me couraient toujours après et elles ne sont jamais parvenues à me rattraper. Et puis j'ai dû faire un choix ensuite parce que j'étais l'écueil et j'ai dû choisir un métier. J'ai dû aller à la chambre des métiers, enfin je vous raconterai ça plus tard. J'étais dans un salon de coiffure, je vais me faire couper les cheveux et puis j'étais bien. Puis je dis bon pourquoi pas. Et j'en ai discuté avec le coiffeur et il m'a donné l'adresse de l'école de coiffure. Voilà comment ça a démarré. Mais voilà, à ce point névralgique, je dis bien névralgique, le mot n'est pas trop fort, de mon adolescence, j'ai dû vraiment bifurquer et m'orienter vers un métier. Et je suis aujourd'hui coiffeur, je suis aujourd'hui pasteur, et je suis heureux dans ma vie. Je suis heureux avec ma vie, dans ma vie avec mon épouse, Michel, avec mes enfants, je suis heureux dans ma vie. Mais quelque chose qui a changé fondamentalement, c'est que Jésus est devenu mon centre d'intérêt et ma passion. Et ma passion pour lui, aujourd'hui, elle est exclusive. Je ne suis plus enfermé dans une passion. Une passion est une cécité. Nous sommes prisonniers dans la dimension passionnelle. D'accord ? Et aujourd'hui, je ne suis plus prisonnier dans une passion. Aujourd'hui, c'est Jésus qui a l'exclusivité. Alors, tout jeune, mon père m'amenait au football. Moi, j'ai connu le LOSC, j'ai connu le stade Henri Joris, à côté du pont de la Dole, avec des planchers en bois. Vous voyez, il y avait une ambiance extraordinaire. C'est ce stade-là qui a connu cette grande équipe du LOSC après la guerre en 1946. Et cette équipe a gagné plusieurs fois la Coupe de France, le Championnat de France. Il y a des joueurs illustres de l'époque. Hein. C'était Barat, Sommerlinck, Le Chantre. Vous voyez, tous ces joueurs-là, ben, c'était les amis de mon père. Et il y avait une liesse autour de ces joueurs extraordinaires. Et puis, je suis devenu supporter. À l'âge de 6 ans, vous vous rendez compte, c'est petit, hein. Et j'allais avec mon père. Je pourrais encore vous faire le plan du stade Henri Joris, tel qu'il était à l'époque. Ça m'a vraiment... Je voulais devenir footballeur. Et alors, vous connaissez la panoplie du supporter ? Vous connaissez la panoplie du supporter ? Alors, il y a la casquette, il y a l'écharpe. Il peut y avoir le tambour. Il peut y avoir la trompette. Vous voyez ? Hein, il y a toute cette panoplie-là. Moi, j'avais que la casquette et l'écharpe. Hein. Je n'avais pas de tambour, pas de trompette. Non, non. Mais il y avait le chant aussi. On chantait, on criait, on supportait. Quelle ambiance ! Quelle ambiance ! Et surtout quand l'équipe marquait un but. Nous étions derrière là, et puis ce stade Henri Joris, quand il y avait un but, on pensait qu'il y avait quelque chose qui était en train d'exploser, tellement ça faisait du bruit, c'était exceptionnel. Et bien sûr, il fallait supporter pendant 90 minutes, 2 fois 45 plus 15 minutes d'entracte, demi-temps. Et il fallait supporter l'équipe quand elle était dans la faiblesse, quand elle perdait. Mais on était vraiment réjouis aussi quand l'équipe marquait un but. Dans les pires des cas, nous chantions. Et bien sûr, nous chantions encore plus fort quand l'équipe gagnait. Nous étions supporters. Nous étions supporters. Et vous savez que le supporter aujourd'hui, et puis j'allais vous oublier, quand l'équipe gagnait, ça impactait la qualité de la troisième mi-temps. Vous savez ce que c'est que la troisième mi-temps ? Hein ? Bon, et c'était une ambiance, c'était les jeunes, on était beaux. Voilà, c'était super. Alors, les supporters sont considérés comme le 12e homme. C'est très important quand on joue à la maison, quand on joue chez soi, parce que les supporters sont là. D'accord ? Donc, l'équipe a un avantage parce qu'elle est supportée. Il y a une ambiance, il y a un feu, il y a une force qui est derrière les joueurs, qui crie, qui chante. Et ça les amène à multiplier leur force. C'est le 12e homme. C'est une force qui est reconnue. Vous voyez, l'encouragement peut transcender un homme, c'est-à-dire faire dépasser à quelqu'un ses limites qui sont habituellement normales. Ah ! Si nous pouvions, frères et sœurs, nous encourager comme ça. Si nous pouvions avoir cette force d'encouragement pour nous encourager comme ça. Je vous demande ce matin d'être courageux, parce que je vais vous parler d'encouragement. Vous allez peut-être devoir m'encourager, parce que Michel et moi, on n'est pas trop, on est sous antibio. Voilà, le thème de ce message sera l'encouragement, source de réconfort. Alors l'encouragement, oui, c'est inciter quelqu'un à avoir du courage. Ça, c'est clair, c'est la base, c'est la définition. Donner de l'assurance à quelqu'un, porter les personnes dans leurs difficultés. Qu'est-ce qu'on a comme difficulté autour de nous ? La vie n'est pas facile. Donner un coup de pouce, vous savez ce coup de pouce ? Donner ce coup de pouce. Ah ! Réconforter, stimuler. Moi, quand le client entre dans mon salon, je le fais s'asseoir. La première chose que je lui dis, c'est bonjour, bien sûr, et je lui pose la question. Alors, comment ça va, monsieur ? Le moral est bon ? Est-ce que le moral est bon ? C'est la première... Après le bonjour, c'est ce que je lui pose. Et je vois là où il en est. Le moral. Favoriser les progrès dans le développement, la réalisation de quelque chose ou d'une vision, d'un objectif. Quelquefois, on peut encourager en donnant des récompenses. Vous savez, vos parents, quand vous aviez un bon bulletin, eh ben, il y avait une récompense à la clé. Il y avait, je ne sais pas ce que vos parents vous pouvaient vous promettre, hein, mais j'espère qu'ils réalisaient, qu'ils vous donnaient. Hein, la récompense pour motiver, pour récompenser. Mais c'est inciter quelqu'un à faire non pas pour un bien, mais faire pour le mieux. Vous imaginez la nuance ? Claude, oui. Tu donnes ta carte bleue à ton épouse. Tu donnes ta carte bleue à ton épouse et tu lui dis, bon écoute, va chercher un cadeau pour ta mère. Et tu lui dis, fais pour un bien ou fais pour le mieux ? Si tu fais pour un bien, mais si tu fais pour le mieux, tu pourrais t'attendre à ce que la carte bleue, elle chauffe un petit peu plus. Hein? Non, mais c'est un exemple que je veux vous donner. Entre quand on fait pour le bien et quand on fait pour le mieux. Encourager, c'est quelquefois se rendre compte que c'est bien, mais tu peux faire mieux, je t'encourage à faire mieux. Vous voyez? C'est l'encouragement. C'est l'encouragement. C'est un degré de progression. Mais encourager n'est certainement pas flatter. Non, on ne flatte pas quand on encourage. Non. C'est une dimension du cœur, l'encouragement. Quand on encourage, c'est une dimension du cœur. On peut encourager pour le bien, pour le mal. On peut amener quelqu'un à l'encourager à faire des choses qui ne sont pas bien, qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Ça peut devenir une source de découragement dans l'encouragement à des choses qui ne sont pas bien. Alors une parole d'encouragement est toujours chargée d'amour. Elle est toujours chargée d'authenticité, dans l'attention de donner. Elle conduit souvent à faire des choix, peut-être à renoncer, peut-être à continuer. On peut encourager à arrêter certaines choses, comme à la continuer. On peut encourager à fermer des portes, et on peut encourager à en ouvrir d'autres. Elle est un baume bienfaitrice. L'encouragement est un baume bienfaiteur, qui rassure, qui soulage, qui transforme, qui vivifie, qui régénère les forces. L'encouragement balaye l'échec afin d'aborder une perspective de réussite qui nous amène dans l'excitation de nos cœurs. Alors pourquoi avons-nous besoin d'encouragement? Pourquoi avons-nous besoin d'encouragement? Quand nous passons dans une période de doute, quand nous passons dans une période où nous sommes déstabilisés, nous avons besoin d'encouragement. Quand nous avons, comme dirait l'autre, le moral dans les godasses, qu'est-ce que ça fait du bien de recevoir une parole réconfortante? Qu'est-ce que ça fait du bien? Nous avons besoin d'être valorisés. Nous avons besoin d'être reconnus. Nous avons besoin d'être appréciés pour qui nous sommes. Nous avons besoin. Cela vient rejoindre notre estime de soi. Ah, tiens, on s'intéresse à moi. C'est important d'être encouragé. Elle va nous soutenir dans ces temps difficiles. Mettre à la lumière le fond de notre pensée, impacté par l'état de notre cœur. Oui. Mais alors, qui a besoin d'encouragement? Est-ce que vous avez besoin d'encouragement ce matin? Est-ce que vous avez besoin d'encouragement? Je ne vous entends pas. Mais tu le dis bien, Claude. Nous avons tous besoin d'encouragement. Et nous sommes frustrés de ne pas en recevoir suffisamment. Nous sommes frustrés de ne pas recevoir ces encouragements. Que procure l'encouragement? Elle procure la considération, elle procure la motivation, l'empathie, c'est-à-dire la capacité de comprendre, de ressentir l'état d'âme d'une personne. Elle procure de la sympathie, de l'amitié, de l'affectivité, de la compassion pour autrui. C'est-à-dire de l'altruisme. Dans l'Église, mes frères et sœurs, en Christ, l'encouragement crée l'unité dans une Église. Nous avons besoin de nous encourager. La parole nous le demande-t-elle pas? Dans Matthieu 23, verset 39, la parole nous le confirme. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est aussi à l'amour que vous aurez les uns les autres. que l'on verra que vous êtes mes disciples. Elle procure l'émulation, la résilience à l'effort et à certaines contraintes que nous avons dans nos vies. Elle nous donne la perspective de sortir de ce tunnel, là où peut-être nous sommes depuis quelques années. Ne plus se sentir seul dans le combat. Avoir un allié, un ami, un soutien. Quand nous avons le soleil dans le cœur, notre existence change de nuance, de spectre. Elle est comme nous l'avons colorée, cette existence, ou comme on nous l'a colorée. L'encouragement apporte la joie et la paix dans les cœurs troublés, malmenés. Mes amis, nous devons raviver les couleurs de nos vies. Nous devons raviver les couleurs de nos vies. Nous devons raviver la couleur de la vie de nos frères, de nos sœurs, par l'encouragement qu'on doit leur donner dans leurs moments, dans leurs périodes difficiles. Voilà pourquoi nous devons encourager. C'est pour amener la lumière de la grâce dans les lieux sombres des vies des frères et sœurs de notre prochain qui est autour de nous, de notre femme, de nos enfants. Il y a des périodes difficiles. Et pour nous-mêmes aussi, nous devons aussi nous encourager nous-mêmes. Dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 7, la parole nous dit « Aussi devriez-vous à présent, non pas aggraver sa peine, mais au contraire, lui accorder le pardon et le réconforter, consolez-le et encouragez-le, de peur que ce malheureux ne soit submergé par l'excès de chagrin et qu'il ne vienne assombrer dans le désespoir. » Nous avons une mission, frères et sœurs. Nous avons une mission tous en tant que chrétiens. C'est de réconforter nos frères et sœurs, notre prochain, par un authentique encouragement. Quand nous sommes devant ce cas de conscience, nous devons regarder avec les yeux de notre cœur. Il y a peut-être une personne en danger devant nous. Il n'y a peut-être pas d'assistance pour cette personne. La parole nous dit dans Romains 12, verset 8, que nos paroles doivent apporter un réel réconfort. Nos paroles doivent apporter la vie qui remonte le moral, fait sortir de la déprime, nous conduit à la réussite vers un nouvel horizon. Alors pourquoi sommes-nous découragés? Le moral n'est pas toujours au beau fixe, la vie n'est pas facile, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. On a peut-être une trop forte sensibilité. Nous sommes peut-être même dans la sémantique péjorative de la sensiblerie. Quand nous regardons les infos à la télévision le soir, quelquefois, moi, quand je vais me coucher, j'ai du mal à m'endormir. Les nouvelles ne sont pas toujours très bonnes. On est peut-être d'une nature pessimiste. Nous regardons peut-être le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Nous avons peut-être été brisés en son temps par l'échec. On a du mal à remonter. Il y a peut-être quelque chose qui est brisé en nous. Nous avons été déçus par le passé. Quelque chose dans le présent aussi qui nous malmène, qui nous empêche de dormir la nuit, qui nous réveille, qui nous torture. Oui. Peut-être. Alors, comment voyons-nous notre avenir, mes amis? D'une façon positive ou d'une façon négative? Nous avons peut-être encore aujourd'hui l'accumulation de nos problèmes dans le couple, dans le travail, dans la famille, dans la santé, notre santé. Ça cause encore peut-être certains soucis à chacun. Quand nous nous regardons dans la glace le matin et que nous voyons les marques du temps qui sont évidentes. Le reflet de notre visage est impitoyable. Mais moi, je le prends bien. Ma femme m'a dit que j'avais jamais été aussi beau. Merci, ma chérie. Quand nous avons perdu tout espoir d'une vie meilleure, toutes les tempêtes ne viennent pas gâcher notre vie. Oh que non. Certaines ont l'opportunité de nettoyer notre chemin afin de nous faire grandir. Oui, personne n'a peut-être remarqué ta tristesse, toutes tes douleurs, ton mal de vivre, la dureté de ta vie. Tout le monde pointe du doigt tes erreurs, tes maladresses. Jacques Brel a dit « La vie ne fait pas de cadeaux ». On t'a peut-être dit aussi, ça je l'entends très souvent, « N'attends rien des autres, comme ça tu ne seras jamais déçu ». C'est triste. C'est triste. C'est une idée du bouddhisme, ça. « N'attends rien de personne, comme ça tu ne seras jamais déçu ». Ça, c'est la vision du monde. Ça, c'est la vision du monde. Et est-ce la volonté de Dieu? Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non. Nous avons besoin, mes amis, des uns des autres. Dieu nous a donné des frères et des sœurs. Nous avons en nous cette communication, cette relation avec le Père, et il nous donne la capacité d'avoir des relations avec nos frères et avec nos sœurs. Voilà la volonté de Dieu. Et nous devons prendre soin des uns des autres. C'est la volonté de notre Père. Romains 12, verset 10, « Comme les membres d'une même famille, aimez-vous en frères d'une affection vraie et profonde, estimez-vous mutuellement. » Voilà ce que demande le Seigneur. Soyez les premiers à vous témoigner des égards. Voilà la volonté de Dieu. Alors sommes-nous des personnes qui encouragent? Sommes-nous des personnes qui encouragent? Apportons-nous notre aide dans des moments difficiles. Nos encouragements portent-ils du fruit? Quel est le fruit de nos encouragements? Si oui, alléluia. C'est le alléluia qui est... Si oui, alléluia. Mais on peut toujours plus. Alors qu'est-ce qui nous bloque? Qu'est-ce qui nous bloque? On n'est pas tous égaux. Il y a des gens, c'est plus facile pour certaines personnes que pour d'autres. Oui, sommes-nous trop timides? Avons-nous un problème avec l'orgueil? Sommes-nous recroquevillés sur une situation qui nous empêche d'encourager les autres? Peut-être n'avons-nous pas envie d'encourager. Ou peut-être n'y pensons pas. Ah! Nous n'avons peut-être jamais encouragé, ou très peu, qui que ce soit. Mais si nous n'avons jamais été encouragés nous-mêmes, dans notre vie, dans notre enfance, si nous avons été livrés à nous-mêmes, si nous n'avons jamais été applaudis, si nous n'avons jamais entendu de bravo, si nous n'avons jamais, en tant qu'enfant, même adolescent, entendu « Je te félicite, bravo. Tu vois ton travail, tu vois ce que tu as fait, c'est bien. Mais tu sais, mon fils, ma fille, je t'encourage à faire mieux. Là peut-être, tu vois que tu as une mauvaise note, mais tu vois, on va travailler ensemble et tu vas aller dans la progression parce que je suis là, je vais t'accompagner et je t'encourage. Et je t'encourage et les choses iront mieux. » Peut-être qu'on n'a jamais entendu ça. Peut-être que nous n'avons jamais été encouragés. Alors si nous n'avons pas été encouragés, vous comprenez toute la difficulté à encourager les autres. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Mais Dieu nous donne la capacité d'encourager. Quand nous ne pouvons pas encourager, quand nous ne savons que critiquer, juger, pointer les problèmes du doigt, laissons Dieu notre Père travailler notre cœur. Laissons Dieu, notre Père, travailler notre cœur. Nous avons besoin de sa grâce, de son amour pour encourager notre frère, notre sœur, notre prochain. Si nous ne savons pas encourager, crions à Dieu, « Seigneur, j'ai besoin de toi. Mon frère a besoin d'encouragement, je n'arrive pas à l'encourager. Seigneur, viens, viens dans mon cœur, viens mettre tes paroles qui vont encourager mon frère, ma sœur, mes enfants. » Alors comment doit-on encourager ? L'encouragement est un don. L'encouragement est un don du Saint-Esprit. Demandons au Seigneur de recevoir ce don. Demandons au Saint-Esprit de nous guider dans la sagesse, dans sa sagesse, avec amour, avec compassion, avec douceur, avec des paroles qui accompagnent toujours la grâce, des paroles de grâce, des paroles d'amour, des paroles qui vont faire grandir l'autre. Dans 2 Timothée 4, 2, la parole nous dit « Parle à la conscience de tes auditeurs. Démontre, convainc, refute les erreurs, censure le mal, encourage ceux qui font le bien, exhorte et donne à tous l'enseignement dont ils ont besoin. » Faisons appel au bon sentiment. Celui qui parle en prophète construit et encourage, nous dit 1 Corinthiens 14, verset 3. Annonçons avec tendresse l'espérance qui est la nôtre en Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Annonçons le royaume, annonçons la grâce, annonçons l'espérance pour encourager le monde. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit « Ne crains rien, je viens à ton secours ». Dieu nous encourage tous les jours. Il renouvelle ses bontés chaque matin. Et c'est dans ta faiblesse que je vais te rendre fort. Tout est possible à celui qui croit, nous dit la parole. Je vous l'ai dit dimanche dernier, nous devons, par le Saint-Esprit, par son onction, proclamer des paroles de vie sur nos vies, sur la vie de nos frères, sur nos sœurs. C'est « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets, car je suis ton Dieu, nous dit la parole. » Apprenons à encourager ceux qui échouent, afin de les aider à se relever. Mes frères et sœurs, on a besoin de nous aujourd'hui. Apprenons à encourager ceux qui résistent, ceux qui réussissent, pardon, afin de les conduire plus loin vers l'excellence dans la vie à Jésus. Michel va nous lire 2 Corinthiens 1 au verset 3. Vas-y.
Ça marche. C'est lequel ? Tu ne m'as pas dit.
Ici.
2 Corinthiens 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est vraiment un Père plein de compassion, un Dieu qui sait consoler dans les situations les plus diverses. Il nous aide et nous encourage dans toutes nos difficultés et nos afflictions, afin que nous soyons nous-mêmes capables de consoler et d'affermir à notre tour tous ceux qui sont dans la peine, en partageant avec eux la consolation que Dieu nous a accordée.
Tu peux la reprendre. Amen. C'est ce que le Seigneur souhaite. 2 Corinthiens 1, verset 3. Intéressons-nous sincèrement aux autres. Donnons un sourire à ceux qui n'en ont pas. Encourageons. Donnons un sourire à ceux qui n'en ont pas à vous offrir. Tendons la main à ceux qui en ont besoin. Femme, encourage ton mari. Mari, encourage ta femme. Parents, encouragez vos enfants. Encouragez. Oui, l'encouragement est simple comme un coup de fil. Il est simple comme un SMS. Il est simple comme un mail. C'est un coucou avec des bises et des bisous. C'est un encouragement. Cet encouragement ne tombe pas parce que cet encouragement, il vient du cœur. Nous avons chanté ce matin, Dieu est le soutien de nos cœurs. Amen. Et c'est une vérité. Ce matin, Jésus veut nous encourager. Parce que celui qui veut vous encourager est plus fort que celui qui vous décourage dans le monde aujourd'hui. Je le répète, celui qui vous encourage est plus fort que celui qui vous décourage. Il est à la fois notre Seigneur, il est à la fois notre coach. Il est notre meilleur supporter. Il aurait pu faire une équipe, peut-être pas de football, mais de rugby, avec les piliers, avec... Il aurait pu. D'abord, il a fait une équipe de 12. Avec lui, c'était 13. Il dit à chacun de nous ce matin, tu vois, je t'apprécie tant. Tu es formidable, j'ai confiance en toi. Voilà ce que le Seigneur veut te dire ce matin. Je t'aime d'un amour infini. Ne t'inquiète pas, ton papa est là. Et il a toutes choses sous son contrôle. Quand Jésus combat pour toi, il gagne toujours. Et Dieu a toujours des projets pour toi. Des projets de vie. Il veut te bénir ce matin. Il veut t'encourager et te bénir ce matin. Et moi, je vous dis, dans Matthieu 7, verset 7, « Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. » C'est un encouragement que le Seigneur te donne, nous donne ce matin. Frappez, demandez, cherchez et vous serez exaucés. N'aie pas peur et confiance. Demeurez en moi et je demeurerai en vous et je vous bénirai. Amen. Il n'est jamais trop tard pour se fixer un nouveau but, pour rêver d'un nouveau rêve, pour vivre dans l'espérance. Jésus va nous faire triompher. Si Dieu est avec toi, qui sera contre toi? Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Il va nous donner la force. Il va nous donner cette force. Il va te placer au-dessus de toutes tes difficultés. Il va te placer au-dessus de tous tes problèmes. Tu vas surmonter tous tes défis, tous les défis qu'il y a dans ta vie. Tu vas les surmonter, tu vas les dépasser, parce que Jésus est avec toi. Il va te soutenir, il va t'apporter la victoire dans ta vie. Parce que Jésus est vivant, parce que Jésus vit en toi. Parce que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Parce que tu peux tout par Christ qui te fortifie. Va avec la force que tu as. Oui, va avec la force que tu as. Va avec la force qu'il te donne. Sois encouragé et encourage aussi à ton tour. On a besoin d'encouragement. Si la mer n'a pas arrêté Moïse, si le géant Goliath n'a pas arrêté David, si la mort n'a pas arrêté Jésus, alors rien ne pourra t'arrêter dans ta marche avec ton Père Céleste. Rien. Parce que Jésus est dans ton cœur. Jésus est avec toi. Et il te porte dans toutes les situations de ta vie. Le meilleur est devant toi. Le meilleur est devant nous. Amen. Je vous invite à prier. Ah Seigneur, Seigneur, nous manquons de bonnes paroles. Nous avons autour de nous des frères, des sœurs, notre prochain qui est dans le besoin. Et nous manquons de paroles réconfortantes, de paroles encourageantes. Seigneur, pardon. Nous te demandons, Seigneur, ce don d'encourager, ce don d'encouragement. Viens, Seigneur, nous donner ce don d'encouragement. Libère dans nos cœurs, dans notre bouche, ces bonnes paroles réconfortantes pour notre prochain. Libère ces paroles d'encouragement. Libère ces paroles qui vont relever notre frère, notre sœur dans la difficulté. Ces paroles qui vont amener la vie, qui vont amener la joie, qui vont amener la paix. Et Seigneur, nous te demandons, là maintenant, s'il te plaît, fais-nous grâce, toi, de nous encourager, là, dans toutes les situations que nous vivons. Seigneur, encourage-nous. Tu vois les difficultés de chacun, les difficultés de santé, les difficultés dans la famille, peut-être dans les difficultés du couple. Seigneur, je ne sais pas, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Seigneur, tu vois nos difficultés. Seigneur, nous te demandons de recevoir un esprit d'encouragement pour chacun. Un esprit d'encouragement. Viens nous encourager. Voilà, nous te remercions de cette grâce que tu nous accordes à chacun ce matin. Que nous puissions cet encouragement le porter à nos frères et nos sœurs dans le monde, autour de nous, dans notre famille, dans notre couple, dans toutes les personnes que nous allons rencontrer, qu'on puisse avoir une parole d'encouragement pour chacun. Dans ton nom précieux. Amen.